de bon par-dessus les frontières. Pour la nage, pour le communisme, sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde. Sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde. Sera l'humeur à le brasier qui consumera le vieux monde.
Brasero, Brassage Radio. La semaine dernière, on a rediffusé la première partie d'une émission faite par des camarades du Gang des Gazières, une émission de radio marseillaise. Dans cette émission, elles ont interviewé des membres du collectif Tzedek, un collectif de juives et juives décoloniaux qui luttent contre le racisme d'État en France et pour la fin de l'apartheid et de l'occupation en Israël-Palestine. Ce soir, on vous diffuse la deuxième partie de cette émission. Bonne écoute. Et attention, c'est parti.
Alors, on continue. Cette conversation à cinq voix. Oui, Elisa, j'avais envie de... Mais du coup, vous trois, en fait, t'as dit tout à l'heure que pour toi, c'était vraiment très pénible d'être interpellée en tant que juive sur la question palestinienne de façon systématique parce que tu es juive. Et je dois dire que moi, c'est souvent ça que je l'ai souvent fait. C'est-à-dire que quand j'avais affaire à des personnes d'obédience juive, pour moi, c'était important de savoir comment ces personnes-là se positionnaient sur la question palestinienne, de manière générale, j'aime bien savoir comment les gens se positionnent politiquement sur un certain nombre de choses auxquelles je les associe. Et on a souvent discuté avec d'autres camarades que c'est une question compliquée. C'est-à-dire que moi, j'avais jamais pensé en fait que ça pouvait être pénible et injuste d'être interpellé sur cette question-là, tout simplement parce qu'on est juif. Et en même temps, ça vient pas de nulle part non plus cette question. C'est-à-dire que en France, il y a un tel climat de confusion entre la communauté juive et le soutien à l'État israélien, qui est notamment vraiment entretenu par le CRIF, le Conseil représentatif des Juifs de France, qui se dit représentatif, dont on se pose toujours la question de comment il se déclare représentatif des Juifs de France. Bon, on ne va pas aborder cette question-là maintenant. Mais du coup, et donc il y a cette confusion permanente qui est faite, et du coup qui vient aussi, pour un certain nombre d'entre nous, entretenir cette confusion. C'est-à-dire quand on a affaire à des Juifs, on a besoin de savoir comment ils se positionnent sur la question palestinienne. Et donc, sur la question sioniste. Et je voulais savoir si ton engagement, mais aussi si Lila ou toi, Avi, si vous avez été aussi, vous êtes confrontés à ça, est-ce que ça génère aussi le même sentiment de colère. Mais du coup, je me demandais si ça avait ton engagement du coup dans Tzedek et le fait de prendre finalement cette identité-là, cette histoire-là à bras le corps, cette identité juive à bras le corps dont tu dis donc que dans ta famille elle était totalement silenciée, et donc le fait de reprendre un peu cette histoire-là à ton compte, finalement, est-ce que ça a atténué ta colère par rapport à cette interpellation?
Ouais, ça risque d'être un peu brouillon ma réponse, mais je vais essayer d'organiser les choses en trois points. Déjà, c'est tellement insupportable. Le quotidien des prises de parole du CRIF, la manif du 8 mars à Paris avec ces interventions du Bétard, concrètement c'est l'extrême droite. Enfin, c'est tellement insupportable que ça me paraît d'une importance absolument capitale aujourd'hui. Sur des paroles profondément décoloniales et antisionistes, et du coup, l'enjeu et la permanence du discours du pouvoir est tellement insupportable à la fois sur le plan politique et puis par ailleurs sur le plan intime que du coup ça fait que ça n'est plus trop ma question aujourd'hui. C'est plus mon quotidien. C'est cette colère-là. Et après, pour autant, je trouve ça quand même important de le dire, parce que c'est déjà, ça décrit les, les évolutions d'une histoire du politique, enfin, et qu'on n'est pas, enfin voilà, on vit des choses à des endroits différents en fonction des moments, voilà. Et aussi parce que, comment dire, je dirais quand même que ça dépend aussi d'où viennent les questions. Que, par exemple, en fait, est-ce que, enfin, je dirais que c'est des questions de, moi, que dans des complicités, dans des alliances politiques, on me pose la question. Je trouve ça tout à fait normal qu'on me la pose, parce que de toute façon, tu construis des alliances politiques avec des gens et que c'est absolument normal de demander aux personnes où elles en sont d'un certain nombre de bases politiques. Et ça me semble hyper OK. Et après, moi, ce qui m'a agacé dans le passé et qui continue un peu de m'agacer, c'est des gens qui par exemple, ne questionnent pas le colonialisme de leur propre pays ou de... et je pense notamment à la France, enfin, et qui vont aller désigner uniquement une position. Et ça, je pense, et j'ai quand même envie de continuer de porter que oui, c'est, enfin, que personne se planque, quoi. Enfin, voilà. Et après, du coup, bah, bien évidemment, dépendamment de qui énonce cette question-là et de dans quelle posture c'est et par rapport à quelle lutte commune, et bah, ça peut avoir. Mes effets d'agacement sont à géométrie assez variable et dépendant de des personnes qui le posent et du contexte. Et bien sûr qu'aujourd'hui, oui, forcément, mais de toute façon, en fait, moi, je suis gonflée de dire ça parce qu'à la fois, ça m'agace beaucoup et à la fois, moi-même, quand je rencontre d'autres juives et d'autres juifs, je pose la question aussi. Donc, du coup, je veux dire, je vois bien que c'est la géométrie tout à fait variable. Et après, tu parlais moi, ce que je trouve très difficile et que je trouve qui change avec Tzedek, et même si je n'ai pas le recul encore de savoir, mais tu vois, quand tu dis d'obédience, en fait, c'est que derrière nos judéités se recouvrent tellement de réalités, et on l'a vu rien qu'à Troyes, on est trois juives très différentes. Et du coup, parfois, c'est comme le sentiment de ça veut dire quoi, en fait, être juif? Moi, je ne suis pas religieuse. Du coup, on me demande des choses par rapport à une identité qui est elle-même tellement mouvante et difficile que parfois, la colère, c'est aussi simplement aussi des... Pour moi, hein, celle-là, c'est très intimement. C'est des simplifications parce que je ne sais pas du tout où j'en suis. Du coup, je m'énerve pour passer à autre chose. Voilà. C'était un peu brouillon.
Non, ça répond carrément à la question, mais je trouve, enfin, ce qui, moi, me renvoie de comment on va demander à des personnes qui ont des identités plus minorisées de se justifier sur des points. Enfin, par exemple, moi, en tant que française, blanche, non-juive, c'est sûr qu'on ne me demande pas de me positionner, à part dans un contexte politique bien précis. On pourrait me dire, OK, c'est quoi ton point de vue sur telle ou telle question politique, dont la Palestine, mais... Effectivement, c'est, ça rejoint cette histoire d'amalgame sur identité juive, sionisme, Israël, d'antisémitisme égal, enfin antisionisme égal antisémitisme, et du coup, qui doit se justifier et à qui on va poser des questions, d'aller dire son point de vue.
Oui, mais d'ailleurs, enfin, moi, c'est pas vraiment la question qui m'aurait énervée. Au contraire, je me serais dit, ah tiens, peut-être qu'elle pense que je peux penser différemment que des institutions juives en général en France. C'est plutôt une personne, par exemple, qui va me parler directement en partant du principe que je suis forcément sioniste parce que juive. Et ça va énormément m'énerver. Par exemple, des personnes qui vont prendre un peu des pincettes pour me parler de ce qui se passe en Israël ou en Palestine. Ah, il y a eu telle chose. Et on sent qu'elle fait un peu attention parce qu'elle se dit, bon, ben, les sionistes, il va falloir faire attention. Et ça va vraiment m'énerver, par contre, oui.
Oui, c'est la double assignation, là,
oui,
pour le coup.
Oui, c'est ça.
Eh bien, je propose qu'on continue sur une deuxième partie de l'interview de Nadia, qui nous amène aussi à la question de l'armée et de ce que ça représente en Israël. Et aussi vers un des thèmes qu'on voulait aborder dans l'émission, qui est aussi l'utilisation du féminisme et des droits LGBT à des fins de propagande sioniste. Du coup, on se retrouve juste après cette écoute.
De kibbutz, et après c'était le service militaire. J'avais mes idées de comment je peux vite participer, mais j'ai pas connu des gens qui ont fait la refuse et qui allaient aux prisons. Ça me paraît très grande pour décider. Comme beaucoup des autres personnes comme moi, on n'a pas eu beaucoup de possibilités. Juste d'imaginer la vie là-bas sans qu'on tous les interviews de travail pour aller faire des choses, faire les permis, aller à l'université. Tu sais que la première question, c'est pas si tu as fait le service militaire ou pas, c'est qu'est-ce que tu as fait. Parce que ça, c'est évident. C'est tout le monde fait, toute ma famille, tous mes amis, tous les gens. Et c'est un peu le charge collective que personne veut faire, mais c'est ton tour, tu étais protégé par les autres et maintenant c'est ton tour de prendre ses charges et de donner ça pour la société. C'est même un truc qui vient de la socialisme. Alors, par rapport à l'armée, les services militaires, je savais déjà que c'est eux qui font tous l'occupation directe sur la Palestine. Je savais que je ne veux pas participer à ça, je ne veux jamais aller vers des checkpoints, je ne veux pas avoir d'échange avec des Palestiniens en tant que soldat. Je savais que je ne veux pas, faire ça, et c'est pour ça que avec mon ami, on a parlé d'aller faire les courses pour être maîtresse et de pouvoir parler avec des soldats qui viennent de la Russie ou de tous les USSR. Et c'est des gens qui, quand ils sont arrivés, et c'était leur obligation d'aller faire le service militaire sans comprendre où ils sont. Donc pour moi, c'était un moment où je pouvais changer de don et préparer l'avenir, les moments où ils vont avoir l'arme dans leurs mains, et de parler de la Palestine occupée et de mes idées. Mais bon, dans ma tête, j'étais dans le centre d'éducation, mais avec des uniformes. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je pouvais plus faire ça et je demandais de sortir en mode mental. Et le fait que c'est vraiment difficile à voir tout ça avant d'aller faire le service militaire, c'est que, en fait, c'est aussi un truc qu'on parle en termes que et féministe quand t'es 16 ans, 17 ans, et il parle d'aller faire un truc super fort, d'être en face à des soldats, d'être commandante et de faire le truc égal comme les hommes, genre d'être combattante. Et là, il te propose de faire d'aller participer dans l'armée féministe. Et donc, on a eu cet pouvoir d'être qui on veut être en face à tous ces jeunes, et aussi de rester entre nous, que de meufs, et de se tomber amoureuse, en fait. Donc, on était tout dans la folie de « Ok, on peut être aussi gay » et aussi de comprendre de notre identité, parce que c'est tout jeune. Et donc, tu es en train de comprendre que, en fait, tu es là parce que, en fait, tu te sens bien d'être aussi pour une première fois avec des gens de background très différents. Donc, c'était là le moment où j'ai commencé à comprendre que je suis juif. Parce que quand t'es né en kibbutz, t'es tout contre la religion. Et tu fais juste les trucs dans la manière sociale et communiste et sioniste aussi. Mais pas la culture de religion. Et donc là, je commençais à comprendre qu'en fait, il y a plein de choses beaux et des choses que je vais apprendre. C'est juste, je parle de la dynamique qui se passe dans le moment comme ça, que d'un coup, tout le monde est ensemble et avec l'impression qu'on peut faire des choses sur nos identités et d'apprendre beaucoup de gestes, de se connaître de l'autre, sauf que tu vois jamais des Palestiniens, tu vas pas vers les Cisjordanie, c'est dehors de tout ça.
Vous êtes sur Radio Galère 88.4 ce soir sur le gang des gazières. On voulait rebondir sur cette suite du témoignage de Nadia par rapport à la question de l'utilisation, la manipulation en fait du féminisme et aussi des droits LGBT en lien avec le pinkwashing à des fins de discours, propagande sioniste, raciste et de comment c'est utilisé évidemment dans le contexte israélien mais là plus particulièrement dans le contexte français.
Oui, en fait, il y a une instrumentalisation du féminisme aujourd'hui en France, mais aussi en Israël et peut-être même dans d'autres pays. En fait, on ne peut pas séparer le féminisme des autres oppressions. Ça n'aurait pas de sens de combattre le féminisme tout en opprimant un peuple, en le colonisant ou en occupant ses terres. C'est où on combat toutes les oppressions ou on n'en combat aucune. Mais ça n'a pas de sens de dire je suis par exemple une féministe coloniale. Enfin, c'est complètement contraire. Et je pense qu'il y a un oubli un peu aussi en France de cette importance-là, que la lutte doit être unie, doit y avoir une unité dans la lutte, et on ne peut pas se dire féministe et par exemple à la marche du 8 mars arriver et menacer de viol certaines femmes de collectifs féministes en disant « Nous sommes les vraies féministes et nous allons vous violer parce que vous pensez différemment que nous. » Enfin, il y a vraiment un problème, je pense, de méconnaissance de ce que c'est que le vrai féminisme, en fait, finalement.
Peut-être pour recontextualiser aussi pour les personnes qui nous écoutent, on avait parlé, je crois, dans une émission précédente, mais à la manif du 8 mars à Paris, il y a eu notamment une partie du cortège et de cortège qui faisait le lien avec la lutte contre le génocide en Palestine en cours, qui s'est fait attaquer par des groupes d'extrême droite sioniste et protégé par les flics, très concrètement. Enfin, je veux dire, c'était un peu main dans la main. Enfin, voilà, de manière particulièrement violente, quoi, pour contextualiser ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je ne sais pas si c'est quelque chose aussi que vous... Enfin, j'ai l'impression qu'a pu être... que vous abordez au sein de TCDEC, comment... Voilà, cette question de l'utilisation du féminisme. Je sais qu'il y a aussi le collectif KSM, où je ne sais pas comment vous êtes en lien, qui se définit comme un collectif aussi, du coup, de juifs féministes décoloniales et qui a aussi plus écrit des articles là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose un peu que vous avez discuté au sein du collectif à Marseille ou plus au niveau d'intercollectif?
Il y avait le texte, mais en fait, je suis en train de me dire que je ne sais plus où est ce texte, mais qui avait été lu à une manif.
Oui, complètement, mais en fait, on a écrit pas mal de choses sur le sujet et sur l'instrumentalisation aussi de l'extrême droite et du Rassemblement national, du coup, sur le sujet féministe en général, pas que par rapport à la Palestine d'ailleurs.
Je sais pas, c'est insupportable, quoi. Enfin, c'est le fémonationalisme, quoi. Enfin, c'est invivable. Enfin, c'est d'une hypocrisie terrible par rapport à, je sais pas, un gouvernement qui là est en train de mettre en place genre des mesures anti-trans et qui à côté de ça va aller louer le pinkwashing israélien. Enfin, c'est des espèces de. Enfin, en fait, c'est. J'ai pas l'impression d'avoir une analyse très 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 plus de choses à en dire que c'est. Ouais, de ce que disait Avi, quoi, que c'est tout à fait insupportable que soit, enfin, puis c'est un argument politicard, ça recouvre pas enfin et puis je sais, en fait, enfin comme Avid disait, enfin tout est hyper imbriqué. Le capitalisme, il va avec le patriarcat et il va avec le colonialisme. Et en fait, c'est des questions qui non seulement se croisent, mais même pas seulement se croisent, s'imbriquent, quoi, qui produisent l'économie telle qu'elle est, la richesse des pays d'Europe tels qu'ils sont. Enfin, du coup, c'est tout à fait insupportable de voir ça mis en avant. Puis, ça fait partie des choses. Par ailleurs, enfin nous en tant que femmes juives, enfin du coup il y a vraiment un espèce de double truc. Déjà on utilise ton nom en disant ah bah t'es juive et donc du coup t'es menacée en France, comme si t'avais besoin d'être protégée qui plus est par l'État. Et alors en plus de ça t'es une femme et du coup t'es voilà. Et puis surtout quand tu vois les exactions de l'armée, voilà, j'ai pas envie de revenir dessus parce que mais quand tu vois les exactions sur les femmes palestiniennes, c'est complètement c'est plus que révoltant. Enfin, je sais pas quoi trop en dire d'autre, mais.
Oui, mais je pense que dans ces rapports de force là, il y a quelque chose qui est symptomatique aussi, c'est que peu importe du côté en tout cas de celui qui oppresse et qui utilise ces rapports de force, il y a toujours les mêmes schémas. Et comme on le disait tout à l'heure avant quand on discutait, en fait, c'est toutes les minorités, elles se rejoignent. Il y a une conversion de lutte. Une convergence de lutte, je veux dire, qui est claire parce que, en fait, on est ensemble aussi dans ce combat-là. Et même, on le voit aussi dans les actualités, ce qui s'est passé pour Rima Hassan. On voit très bien que c'est aussi ciblé souvent sur des femmes. Et ça ressort. Et je pense que c'est important aussi de le montrer, en fait, que c'est une réalité et que, en tant que femme, même juste femme, on prend des risques quand on est dans la politique ou quand on prend des positions politiques. Et en plus, nous, en étant juives, c'est sûr qu'il y a quelque chose aussi en plus. Et je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qu'on discute et c'est toujours ouvert aussi. En tout cas, moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans le collectif, mais j'ai vu aussi cette importance aussi d'égalité, de droit à la parole pour tout le monde et de remise en question sur tout. Donc, il y a quand même... c'est une safe place, en tout cas pour nous aussi, comparé à d'autres endroits, quoi.
Et puis là, on lisait, il y avait un article qui est sorti dans La Provence sur la dernière manif, là, où Rima Hassan s'est exprimée. Et, il commentait sa tenue, la marque de ses baskets, quelle veste elle portait. C'est terrifiant de sexisme, quoi. Et tout en disant derrière qu'ils défendent les femmes victimes d'oppression. Il y a vraiment une profonde arnaque, quoi. Cet article, il est assez terrifiant, quoi.
Ouais, surtout dans un contexte de répression hyper forte sur la solidarité palestinienne et notamment de silenciation des voix féministes et queer LGBT. Parce que, dans la répression, on en avait parlé aussi dans notre émission, on peut penser à Mariam Aboudara, je veux dire, féministe palestinienne expulsée, arrêtée, et que c'est vraiment cette présentation d'Israël à chaque fois comme l'enclave un peu des droits... et féministe et des LGBT, ça a vraiment une grande histoire qui est aussi liée à l'histoire économique parce que c'est quand même un pays avec un fort pouvoir économique dans, alors peut-être plus chez les gays relativement friqués occidentaux, mais c'est quand même un voyage de destination hyper important Israël et que c'est vraiment un public cible aussi. Et tout en silenciant complètement, par exemple, les voix queer palestiniennes, on pourra aussi mettre en lien, du coup, à l'émission en podcast, différents textes qui ont été écrits par des collectifs et comment, le génocide en cours, mais la répression en général va aussi les attaquer forcément en tant que minorité. On se retrouve souvent au premier rang sur ces questions de la répression.
Oui, moi, je voulais... Je ne sais pas si vous avez des exemples concrets, par exemple en France, de comment, justement, le féminisme est utilisé à des fins de propagande sioniste. Mais peut-être vous n'en avez pas, et ça va aussi.
Oui, non, mais déjà, par rapport au 7 octobre, c'est vrai qu'il y a eu... peut-être que tu en parleras peut-être mieux par rapport à Aurore Berger.
Ouais, ah oui, c'est vrai. C'est... J'avais oublié au grand âge.
On aurait préféré l'oublier, en fait.
Non, mais il y a eu ce truc. Bon, alors oui, elle a menacé, elle a parlé,
alors,
elle a fait une annonce.
Aurore Berger.
Aurore Berger, elle est ministre à l'égalité. Alors comment ça s'appelle son titre officiel? C'est
l'égalité femmes-hommes
et la lutte contre les discriminations, oui. Je crois. Et elle a annoncé. Comme le gouvernement sait le faire, donc avec pompes et fracas, qu'ils allaient retirer l'intégralité des subventions à toutes les associations qui n'avaient pas fortement marqué leur désaccord du 7 octobre et qui donc du coup seraient associées à de l'apologie du terrorisme. Donc pompes et fracas, elle dit oh là là, on va désubventionner plein d'associations, ce qui est déjà enfin, en fait, je sais pas, l'État, il donne de l'argent à des associations pour faire fonctionner des trucs, pas par rapport à... Enfin, s'ils considèrent que leurs principes sont non concordants avec le droit, et ben, elles n'ont pas le droit d'exister, et c'est tout, en fait. À partir du moment où elles existent, c'est qu'elles ont été validées. Enfin, en plus de ça, juridiquement...
Et qu'elles signent le fameux...
Le fameux pacte républicain, là, le contrat d'engagement républicain qui assure leur adhésion à la laïcité, la fameuse laïcité. Hein. Mais du coup, en plus de ça, ça a été une annonce faite de... c'est des associations qui vont être désubventionnées parce que ne respectant pas suffisamment les droits des femmes, notamment des femmes victimes du 7 octobre. Et en plus de ça, c'était complètement une annonce. Il n'y a eu aucune association désubventionnée. Enfin, c'est vraiment une manière de montrer un prétendu soutien à des femmes victimes. C'est un effet d'annonce complètement politique. Comme s'il y avait eu des associations, évidemment ça s'attaquait aux associations musulmanes ou aux associations de quartier ou aux associations de défense des femmes victimes d'islamophobie ou voilà, c'était pas très clair hein, mon exemple, mais c'était celui qui me vient en tête.
Je pense que c'est très important aussi de rappeler que c'est vraiment contre des associations féministes. C'est un peu une façon, j'ai l'impression, de dire à ces associations oui, ok, vous pouvez vous battre pour le féminisme, mais par contre, toujours avec parcimonie et vous placer en fait un peu de notre côté en fait. Vous pouvez dire certaines autres choses non, sinon vous enlèvez vos subventions. Le féminisme c'est comme nous on a envie qu'il soit et pas. Enfin, c'est une façon de toujours d'avoir la main mise en fait sur les femmes finalement.
Oui, je crois que c'est la LAB hein, qui a encore été visée directement. Je crois que même elles ont été citées par la ministre, quoi. Ce qui est vraiment à dire, l'islamophobie derrière. Elle est extrêmement prégnante, quoi. C'est quand même une association qui est visée systématiquement par les menaces de retrait de subvention, quoi.
Je propose, parce qu'on avance dans l'émission, qu'on écoute la dernière partie de l'interview de Nadia, pour aussi de pouvoir revenir aussi un peu sur l'action, qu'est-ce qu'on peut faire, et vous, qu'est-ce que vous faites aussi au niveau de TCEDEC, quelles alliances justement sont possibles.
חלב חמוץ וגם דבש מר ארץ מניבה
Oui, après, quand j'ai fait mes études au désert là, et là j'ai commencé à aller vers des collectifs qui sont déjà et anti-sionistes qui sont très clairs avec leur position, genre Zohrot, qui est un des meilleurs collectifs pour politiser les jeunes, parce que c'est une association qui fait juste qui va chercher les histoires effacées de villages palestiniens, qui font des tours pour voir la vie d'avant, qui ont des archives. Et qui aussi propose à penser à des avenirs décoloniales pour tout le monde. Et ça a ouvert mes yeux de ouf. Et après, j'ai commencé de me rapprocher vers Tayosh, il y avait des collectifs qui font le moment de récolte des olives et accompagnement de héberges avec leurs, des Palestiniens qui sortent avec leurs berges. Et qui reçoivent plein des attaques, soit des colons, soit des militaires. Et donc là, je commençais à connaître des gens et de faire des liens personnels et d'être plus active, de essayer de faire quelque chose avec cette responsabilité que je sentais que je dois faire quelque chose. Et donc je rejoins les collectifs comme Free Jerusalem et j'étais très active dans des moments spécifiques comme Eurovision qui était en Israël et les moments de marche de retour au Gaza. On a créé un groupe qui s'appelle Return et c'est des Israélis contre l'apartheid. Et le lien entre les queer et les féministes et les mouvements anti-zionistes est assez inévitable, parce qu'en fait c'est le même genre. Les personnes queer sont très très présentes dans les groupes pour le mouvement pour la Palestine. Et donc moi c'était pas mon époque, mais Anarchiste contre le mur, c'était beaucoup de queer, les collectifs contre le pinkwashing bien sûr. Donc Free Jerusalem, Zohrot, les Refusniks, tous ces groupes que je note, c'est, on peut carrément dire que c'est des Israéliens anti-zionistes féministes. Et j'ai gardé ça quand j'étais pas... J'ai décidé quand même de ne pas rester parce que c'est... Je voulais pas vraiment participer à ce projet et je savais pas comment je peux être... J'étais en mode je suis anti ce projet, mais je reste et je gagne le privilège. Et j'imaginais que si je serais dehors de ça, j'aurais moins de cette lien direct. Aussi le fait que je commençais à comprendre que aussi entre les juifs, il y a ce racisme structurel et qui me touchait d'un coup. J'ai compris qu'en fait, même si je suis née avec des juifs européens, et l'autre côté de ma vie, c'est des juifs irakiens, et on ne parle jamais de ça. Et ça n'existe pas dans l'histoire zioniste. Il n'y a pas. On est tous pareils. On a tous le même privilège. On a tous oublié nos langues et on a devenu le nouveau israélien. Et moi, j'étais dans ce mode et d'un coup, j'ai commencé à me dire, mais attends, pourquoi je dois galérer pour apprendre l'arabe si ma mère, elle parle arabe? Et tout le même histoire qu'on connaît de le racisme intégré que j'avais. Et d'un coup, j'ai commencé à me dire, non, mais en fait, je suis pas blanche et c'est pas que ce côté qui compte. Il y a une grande histoire derrière, l'histoire de ma famille en Bagdad et on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé à la fait que c'était confortable pour eux de rester là-bas. Et c'est que là que j'ai appris, je commençais à parler avec ma famille, je commençais à comprendre le niveau de cet mouvement zioniste qui est aussi la fait qu'il y avait tout ça en Europe. Ça créait un moment de grande rupture avec la communauté en Bagdad, les juifs, les musulmans, tous les restes de gens qui partageaient plein de choses ensemble, et les gens de ma famille qui n'ont jamais eu peur, et que juste la fait que la création de cet État et la fait qu'il y avait aussi les propagande et aussi essayer d'avoir plus et plus de gens, d'avoir des majorités juifs. Et ils sont venus en Bagdad pour faire de ma famille, m'a parlé de cette histoire de Mossad qui a planté une bombe dans les synagogues. Et c'est ça qui a fait que tout le monde en Bagdad, c'était la fin des communautés juives. C'est le moment où tout le monde est parti de là-bas. Et donc, ma famille, c'est l'année 55. Mais moi, quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à me dire, mais qui voulait faire un État sioniste? Et donc, c'est là où je commençais à penser de, je suis pas OK avec l'idée. J'avais une grande rupture avec ma famille, côté juif et ashkénaze, parce que je commençais à dire, mais vous voyez pas que on n'est pas pareil. Il y a le côté de ma mère et tout côté, tous les communautés irakiennes qui, quand elles sont venues ici, elles étaient en camp et elles ont rien reçu. Et nous, dans le kibbutz, il y a le terrain qui est gratuit, sur des fois des terrains des Palestiniens, des villages palestiniens qui restent rien, on voit rien. Et, mais tu as tout le soutien de l'État pour créer ta communauté tant que ça se met d'accord avec les propagandas zionistes. Donc, j'ai commencé à flipper de juste dedans. J'étais, mais je suis pas du tout ce que je devenu. Je veux pas être dans ce kibbutz avec ces jeunes qui pensent que c'est normal. Donc, je pensais que plus tard, quand ce sera plus décolonial, peut-être je vais retourner pour être plus présente. Ça me demande aussi de détachement, aussi de culpabilisation, beaucoup de choses. C'était pas que facile, mais c'est la solution pour l'instant que je pensais qui est plus raisonnable, c'est de faire mon militantisme dehors et de l'Europe et de quand même garder les liens et de aller là-bas tous les ans. Et donc, c'est assez naturellement, comme on dit, c'est assez évident que je trouvais Tzedek. Pour moi, c'était ça que je cherchais en Europe. J'ai galéré un peu pendant des années. J'ai pas trouvé la combinaison de aussi juif, mais aussi anti-zioniste et aussi des gens qui veulent être actifs et de faire des choses. Mais il y a pas longtemps, il y avait le congrès juif et anti-zioniste. On était 500 personnes avec les armes dans les yeux. C'était à Paris. Et c'était tous les groupes de l'Europe, beaucoup de groupes de Finlande, des Pays-Bas, des Espagne, de tout. Et c'était comme un moment historique, parce qu'on est toujours, c'est juste des groupes de 3-4 personnes. Et d'un coup, d'être qu'avec ces modes, et ça arrive jamais. Parce que même en Israël, on peut dire que dans les manifs ou dans les trucs, on était vers 10, 20. C'est jamais beaucoup. Et d'un coup, en fait, ça existe en Europe. Il n'y a pas beaucoup de juifs. Et donc, bien sûr, pas beaucoup de juifs anti-zionistes, mais ça existe. Et si on réunit, s'il y a des groupes comme Tzedek qui portent une position super claire, ça fait que beaucoup de jeunes arrivent à se connaître et faire l'effort pour venir et se retrouver ensemble pour penser de ce qu'on peut faire dans le moment de génocide et de prendre, de faire des liens et des échanges. Pour porter une voix plus subtile et plus grande que ce qu'on entend en Europe.
Retrouve le Gang des Gazières ce soir sur le 88.4 Radio Galère avec nos invités de Tzedek. Avant qu'on rebondisse sur cette dernière partie de l'interview, je voulais vous présenter du coup le morceau de musique que Nadia a choisi pour ce montage. Donc c'est un morceau d'une chanteuse israélienne, Inbal Perulmeter, qui s'appelle Emdat Avot. Je pense que ma prononciation est vraiment catastrophique. Voilà, elle m'a envoyé une traduction rapide des paroles. Fin de 2000 ans d'exil, holocauste, espoir. La terre produit du lait aigre et du miel amer. Une famille endeuillée, routine de la semaine, et une ancienne inimitié qui couvre tout. La tête baissée, nous continuerons à souffrir, ou crions à haute voix. Le paradis ne peut pas être acheté avec du sang. Voilà, et c'est une chanteuse qui, historiquement, dans son parcours, s'est positionnée comme antisioniste. Et du coup, Avit, t'avais envie de rebondir aussi sur cette partie de l'interview.
Oui, je voulais dire que... Alors, Tali en a parlé, mais c'est vrai que il y a plein de façons de faire de l'activisme ou de résister, en fait, d'une certaine manière. Déjà en portant la voix des Palestiniens qui ne peuvent pas, forcément, en manifestant. Crier dans la rue, ça fait du bien aussi. À part ça, en parlant de leur culture. Il y a toute une culture palestinienne qui est un peu beaucoup, même aujourd'hui, l'armée est en train d'effacer énormément par les bombardements les archives et beaucoup d'endroits qui sont extrêmement importants, qui n'existeront plus. Parler de la culture palestinienne, par exemple de la broderie palestinienne, du tatré, peut-être même à apprendre à broder, c'est faire revivre en fait leur culture, c'est une forme de résistance. De pouvoir faire en sorte que leur culture continue à vivre et qu'on n'oublie pas toutes ces choses. Y a évidemment le boycott qui est avec la campagne BDS, mais en fait il y a aussi l'application No Thanks qui répertorie un petit peu toutes les marques. C'est super simple parce que dans n'importe quel magasin on peut scanner en fait le code barre et on nous dit si c'est un produit qu'on peut acheter ou pas. Et pour quelqu'un qui veut vraiment boycotter, alors on n'est pas obligé de boycotter à fond toutes les marques, mais déjà de savoir dans les grandes lignes, Carrefour par exemple. Ensuite, on peut du coup boycotter, mais aussi faire la démarche, on va dire entre guillemets, d'aller un peu plus loin, d'acheter des produits palestiniens. Quand on peut, alors pas tout le monde ne peut partir en Palestine, mais il y a des sites où on peut acheter, alors pas des sites qui viennent de Chine ou des choses où ça tombera pas dans la main, l'argent tombera pas dans la main de Palestiniens. Il faut connaître, en général il y a pas mal d'associations et de collectifs qui connaissent les sites qui sont bien, qui sont vraiment connus pour être sérieux. Il y a aussi le fait de faire de la contre-propagande sur les réseaux sociaux, que ça soit dans nos stories, d'écrire dessus, de bien rappeler que l'antisionisme et l'antisémitisme sont deux choses différentes, ce qui est extrêmement important et important même pour la sécurité des Juifs en France et dans le monde. Ce qu'on peut faire aussi, c'est donner de l'argent à des associations. Alors, Tali en a parlé, il y a même des associations antisionistes israéliens. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, Omzim Beyachad, qui est Standing Together, c'est un groupe. Alors, il ne me semble pas qu'ils sont antisionistes vraiment, mais en tout cas, c'est des sionistes d'extrême gauche en Israël qui organisent énormément de choses. Et par exemple, ils font des demandes de dons pour des choses spécifiques. Par exemple, comme l'aide humanitaire, ils ont essayé de passer. C'est très compliqué, je ne sais même pas s'ils ont vraiment réussi. Mais dans le doute, tout le monde a donné. Ils ont pu remplir des camions et ils sont arrivés avec des camions, des voitures. Et ils ont fait une manif devant. Ils ont fait pression, en fait, pour essayer de passer l'aide humanitaire. Et voilà, c'est toutes ces choses-là, en fait, collées les unes aux autres qui font que c'est... On peut résister d'une manière ou d'une autre, même de France, même de loin. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter.
Il y a la campagne Stop Arming aussi, qui est à l'origine plusieurs syndicats de personnes palestiniennes, Workers in Palestine, qui ont fait un appel mondial à bloquer l'armement d'Israël, des différents États et des différentes entreprises qui contribuent au génocide en cours. Oui, et du coup, oui, par ailleurs, ça se solde. Là, à Marseille, ça s'est soldé par la manif, je ne sais plus combien, mais devant Eurolinx, qui est une entreprise qui fabrique des munitions. Et ça se solde aussi aux États-Unis. Je regardais là sur Insta, il y a des mouvements de grève assez importants de travailleurs et travailleuses qui font grève ou même occupent ou rendent l'accès aux usines impossible. Et du coup, c'est possible aussi d'aller. Enfin, il y a le groupe que tu évoquais tout à l'heure, la KSM, qui a fait un appel à promouvoir cette campagne Stop Arming Israel. Du coup, c'est possible de faire des grands collages. Ça a été fait un peu dans les rues de Marseille il y a pas très longtemps. De promouvoir cette campagne et de visibiliser à la fois. Enfin, et ce qui est intéressant, c'est aussi que ça vient nommer. C'est beaucoup dit là en ce moment dans les manifs. La France n'est pas complice, elle est coupable. Ça vient nommer le fait que c'est pas uniquement des complicités, quoi. C'est vraiment, il y a des intérêts, il y a des entreprises, il y a des personnes qui font en sorte qu'il y ait des armes qui tombent sur des gens, quoi. Enfin voilà, du coup ça vient nommer et ça fait aussi des possibilités de mise en lutte là où on est, quoi. Enfin, voilà.
Mais on pourra aussi dans l'agenda à la fin de l'émission donner quelques rendez-vous importants qu'il va y avoir prochainement sur Marseille, notamment par rapport à toute la question des JO et de la participation, enfin de lutter contre la participation d'Israël aux JO. Et j'avais envie de rebondir sur quelque chose.
Pardon, juste pour rester toujours, il y a quand même aussi énormément de collectes en ligne de fonds, notamment sur le site de l'UJFP, sur le site, je pense, de la FPS aussi, Association France-Palestine Solidarité, donc de collecte de fonds pour Gaza. Donc voilà, pour les personnes qui veulent participer financièrement, c'est aussi possible et absolument nécessaire.
Ouais, carrément, merci. Puis on pourra mettre les liens aussi sur le site de Radio Galère ou de Radio Rageuse où vous pouvez retrouver nos émissions. Et par rapport à quelque chose que tu disais, Avi, sur cette question de la mise en danger des personnes juives en lien avec l'amalgame antisémitisme, l'antisionisme égale l'antisémitisme, etc. C'est un des trucs que je trouvais marquant aussi dans la fin du film Israélisme, où en fait les personnes dénoncent aussi que plutôt que de porter toute cette énergie sur la propagande pro-israélienne, de faire le parallèle avec la montée de l'antisémitisme dans tous les groupes, par exemple, de white supremacy aux États-Unis. Et justement, cette espèce d'hypocrisie des discours politiques, parce que ça a en même temps des dirigeants, des politiciens qui tout d'un coup vont se dire antisémites quand il s'agit en fait des liens avec Israël et du coup de la défense inconditionnelle d'Israël, et qui sont ces mêmes politiciens, politiciennes qui en même temps défendent aussi ces groupes suprémacistes blancs qui sont aussi clairement antisémites. Et du coup on a les mêmes contradictions en France, et peut-être j'avais un peu envie de revenir là-dessus et sur en quoi en fait ça met en danger plutôt que de protéger du coup les personnes juives aussi dans le contexte français, mais je pense plus globalement.
Oui, et de nous... Alors, ça nous... déjà, le sionisme nous met en danger, je pense, de deux façons. Les juifs en général, par rapport à cet amalgame d'antisionisme et antisémitisme. Mais je dirais même, les juifs antisionisme, on a un deuxième danger, qui est par rapport aux personnes juives sionistes, qui des fois se permettent de l'antisémitisme envers nous, et des insultes, comme une insulte que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, je ne dirai pas laquelle parce qu'on est à la radio, mais ça se finissait par « sale juive ». Donc c'est une juive sioniste qui m'a traitée de « sale juive ». Et je me suis dit, c'est très intéressant en fait comme message, parce qu'en fait ça me montre que, finalement, comme tu es sioniste, tu oublies en fait déjà que le plus important en fait, comment expliquer ça? j'ai l'impression que la personne a oublié en fait ce qu'était que le vrai antisémitisme, parce que juste après je lui ai parlé de façon très très polie, en plus j'ai répondu de façon polie, et elle m'a dit mais en fait tu par ta story tu es en train de faire, que j'avais mis sur Instagram, tu es en train de faire de l'antisémitisme. Et je lui ai expliqué la différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme, et je lui ai expliqué que son insulte à elle, par contre, elle était antisémite. Clairement, enfin, il n'y a pas de question dessus. Par contre, l'antisionisme, c'est une opinion. Et je me suis sentie, enfin, je me suis dit vraiment, c'est extrêmement grave d'en arriver là à ce que, finalement, même des personnes juives n'arrivent plus, en fait, à combattre le vrai antisémitisme et le remplacent juste par de l'antisionisme. Finalement, ce qui est plus important, c'est surtout ne pas être antisioniste. Bon, antisémitisme, c'est pas très grave, je te traite de sale juive, tu le mérites bien, finalement. Mais l'antisionisme, ça, c'est vraiment très, très important. C'est une opinion, quoi qu'il arrive, à défendre coûte que coûte. Ça m'a énormément perturbée, en fait, et je me suis dit que c'était pas si bizarre que ça, parce que, finalement, il y a quand même un lien entre le sionisme et l'antisémitisme, ce que moi, je fais, finalement, un peu. C'est le fait de vouloir forcément nous, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il me semble, nous parquer un peu, nous ghettoiser dans un pays comme si on ne pouvait pas vivre parmi les autres nations, en fait, et qu'on devait absolument être à part. C'est très antisémite, en fait, de penser comme ça, de base. Voilà.
Jusqu'à aller manifester avec Marine Le Pen, ce qui est quand même. C'est fou. Moi, ça a été. Je pense, dans les événements là de cette année qu'on fait, que je me suis dit bah oui bien sûr que je vais prendre contact avec Tzedek et rentrer à Tzedek, c'était impensable de voir des personnes juives défiler avec le Rassemblement National, c'est quelque chose qui est mais qu'en plus de ça je trouve même stratégiquement une très très mauvaise idée, je veux dire ces gens vont pas du tout nous faire du bien, ils ont pas du tout envie qu'on soit là, quoi, et ouais, enfin, il y a ça et ce truc du discours de cette espèce de confusion que l'État nous met. Enfin, c'était Pierre Stamboul à une manif qui est porte-parole de l'Union juive française pour la paix qui disait ça nous met une cible dans le dos à un moment. Et je trouvais que c'était une expression qui était, j'avais trouvé ça assez marquant. Comment le fait que l'État dise ouh là là, c'est de l'antisémitisme, ça vient nous désigner du coup comme des cibles. Effectivement de.
C'est-à-dire que d'associer toute voie de contestation concernant la question palestinienne est associée à l'antisémitisme. Et donc, oui. Du coup, c'est désigner tous les juifs comme partisans de la politique israélienne, voilà. Et donc de la politique génocidaire, oui. Israélienne. Et donc, c'est vraiment le propos de Tzedek qui est extrêmement clair. Oui. C'est de dire, mais en fait, c'est ça qui nous met en danger. C'est de nous désigner comme de nous confondre, oui. Nous, juifs, avec l'État d'Israël. C'est le danger absolu. Et c'est vrai que c'est soulageant aussi de lire ça, parce que moi, c'est comme toi, Elisa, c'est-à-dire que quand j'ai vu une partie de la communauté juive, parce que c'est vrai qu'il faut aussi revenir à c'est pas toute la communauté juive de France qui est allée manifester aux côtés du Rassemblement national, mais n'empêche que c'est assez inédit. Et du coup, et moi, à ce moment-là, ça a été assez traumatisant pour moi. Hein. C'est-à-dire que je me suis dit, là, il y a un basculement en France qui est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, tout se fait sur... et comme le dit très bien Tzedek, qui utilise ce terme d'agenda, c'est que l'État français et les partis politiques français, la droite, l'extrême droite, la Macronie, une partie de la gauche, a un agenda... un agenda islamophobe. Et n'a pour le moment pas d'agenda antisémite. Mais on commence par les musulmans, on finit par les juifs, ou inversement. Et donc, du coup, et moi, quand j'ai vu, quand j'ai pris connaissance du collectif Tzedek, mais qui est aussi une question portée par l'UJFP depuis toujours, c'est justement de mener ces deux combats de front. C'est-à-dire, c'est d'une urgence. Pour moi, c'est une urgence totale, là, maintenant. C'est vraiment de mener ces deux combats-là de front et de surtout pas les séparer. C'est vrai que Tzedek est complètement clair là-dessus, quoi. Et c'est vrai que c'est réjouissant, enthousiasmant et soulageant.
Et on en parlait un peu, mais après, moi, je suis pas du tout experte là-dessus. Il y a des camarades de Tzedek qui sont vachement... Mais on parlait un peu du décret Crémieux, par exemple, et comment... Enfin, je sais pas trop si c'est comment le fait de donner un statut spécifique, ça vient créer des espèces de guerres entre personnes musulmanes et personnes juives, où l'État colonial il s'en sort très bien en désignant des. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que. Enfin,
donc le décret Crémieux.
En... Oui, pardon. Ouais, vas-y. Vas-y.
Si l'une de vous peut en parler.
Non, mais si tu veux...
Non, vas-y, si tu sais... Vas-y, tu peux nous dire ce que c'est le décret Crémieux.
Bah, le décret Crémieux, c'est le décret qui donne, donc, du coup, comme Lisa l'a dit, un statut particulier aux Juifs d'Afrique du Nord, donc, par exemple, ou d'Algérie. Leur donner la nationalité française.
Voilà, c'est pas un statut particulier.
Oui, c'est pas un statut particulier, c'est leur offrir la nationalité en fait, et donc des droits justement, des droits, disons, comment on dit.
Des droits universels, enfin tels qu'ils existaient, qui étaient. Alors les Juifs en Algérie étaient des indigènes, comme les Algériens, comme les musulmans.
Oui.
Les Juifs avaient quand même un statut protégé, donc n'avaient pas tout à fait un statut d'égalité avec les musulmans. Et pour diviser la population indigène, et puis aussi pour faire une politique du chiffre, pour avoir un maximum de Français, les Français ont d'office. Hein, c'est-à-dire que, parce qu'en il faut savoir que la hiérarchie rabbinique était contre la naturalisation des Juifs. Mmh. Ils ont été naturalisés d'office sans qu'ils aient un mot à dire. Et du coup, du jour au lendemain, sont devenus Français et ont du coup n'étaient plus des indigènes et avaient les mêmes droits que les Français. Mais avait des droits supérieurs aux musulmans. Oui. Donc c'est en ça que c'est un statut particulier, peut-être que tu voulais dire.
Oui, c'est tu l'exprimes mieux que moi. mais du coup, ça, je pense, ça a créé quand même une certaine jalousie et surtout un certain décalage en fait finalement avec la population musulmane où finalement ils se sont retrouvés un petit peu au-dessus. Finalement, on a des droits, on est au-dessus de vous quoi. Et c'est je pense que ça a vraiment pas été bénéfique, loin de là. Enfin, d'ailleurs,
les Juifs ont quitté l'Algérie en 62.
Donc,
à l'indépendance de l'Algérie. Il faut savoir quand même que cette nationalité française que les Juifs ont obtenue de force, c'était en 1875.
1880.
En tout cas, à la fin du 19e siècle. Donc, cette nationalité-là était suspendue. C'est-à-dire qu'entre 39 et 45, les Juifs n'étaient plus français.
Oui, c'est vrai. Ils ont été chassés des écoles, etc.
Voilà. Donc, en Algérie, il n'y avait plus la nationalité, ouais. Il n'avait plus la nationalité française pendant toute la durée de la guerre. Hein. Donc, ce même État qui prétend protéger les Juifs.
Mais oui. On est français quand ça leur arrange.
Ouais. C'est ça.
On arrive malheureusement à la fin de l'émission. Du coup, on va devoir un peu arrêter dans les discussions. C'est vrai que ça donnerait envie de continuer. Et j'avais un peu en tête qu'on voulait quand même annoncer quelques dates d'agenda. Aussi, tu avais envie de lire ce poème, oui. Lila. Peut-être ça peut nous permettre
ramener un peu d'espoir dans tout ça.
Ouais, vas-y.
Ok. Donc, c'est une ode aux femmes palestiniennes, mais je pense que c'est aussi une ode à toutes les femmes qui sont aussi confrontées aux violences qu'on parle aujourd'hui. Brasier lumineux, perçant la nuit bleue, notre seul vœu est que les torrents de haine cessent. Nous sommes les premières à résister aux flammes. Sans cesse, les femmes font de leur fêlure des armes. En l'honneur de celles qui sont sorties aller aider une voisine, écrasées sur le palier, violées, brutalisées par une descente d'hommes enragés, à celles qui ont eu le ventre écrasé par la mort alors qu'elles allaient donner la vie, à celles qui ont prié, qui ont promis un dîner à leur enfant, à leur corps affamé, à celles qui ont rassuré leurs frères et sœurs. Maman et papa sont sous les décombres, mais ils sont toujours là. À celles qui soignent les corps et les âmes déshumanisées et trucidées par la violence des colons. À toutes ces femmes qui se battent chaque seconde, votre lumière est éclatante, c'est votre force qui éclaire la tempête. Nous sommes sœurs, sœurs de combat. à toutes ces âmes qui font face au chaos, leur espoir est le plus beau. Lorsque les hommes décident de coloniser, ils volent et violent des terres, des flores, des faunes, des corps, des âmes, agression masculine cherchant à mettre la femme en sourdine. Elles perdent leur ami, leur vie, leur mère, leur père, leur terre, leur amour. Elles pleurent. Nous pleurons de sanglots. Des flots coulant depuis des générations. Vivre, elles le souhaitent. La survie leur est imposée. Là où le pouvoir enferme les femmes, trucidées, agressées, instrumentalisées, sexualisées, objectisées, censurées, écrasées par une violence inouïe qui semble infinie. Cette douleur marque notre chair imprégnée des cris, des chants d'espoir, des coups qui brisent les âmes, qui nous poussent à résister face au drame. Face au chaos de l'homme, il y a une chose qui reste. Notre espoir est grand, il nous guidera malgré les vents. Force féminine qui sommeille en nous, notre peau une terre minée prête à exploser une à une. Rien ne fait reculer l'âme grande brûlée, c'est leur force qui les font danser dans la lave. Elles élèvent leur destinée à la force de leurs bras, marquées par les vies passées, le présent imposé, le futur rêvé. Elles transforment le pire en brasier, éclairent ce chemin battu, pour que celles qui la précèdent et celles qui la suivront sachent que la lumière fut.
Merci pour cette lecture. Avant de se dire au revoir et de laisser peut-être quand même un petit morceau, on voulait rappeler quelques dates à l'agenda. Demain, c'est le 1er mai, donc rendez-vous tout le monde dans la rue à 10h. Il y a notamment un appel de faire un cortège appelé par Urgence Palestine-Marseille et en lien aussi avec l'appel des syndicats de Gaza. Le 4 mai, il y a une... j'ai mal préparé cet agenda.
Au théâtre Tourski.
Oui, vas-y, merci.
Oui, il y a en fait un événement en soutien aux enfants et femmes de Gaza, avec des musiques, chants, lectures, poésie, vidéos, toutes sortes d'ateliers au théâtre Tourski, de 14h à 20h. Et l'entrée est libre, donc voilà.
Et le 5 mai, comme tous les dimanches, il y a la manif pour la Palestine, pour le cessez-le-feu, la fin du génocide, qui est donc tous les dimanches à 14h, départ Porte d'Aix. Aussi, à 11h, il y a un rassemblement au Vieux-Port contre les attaques transphobes, face aux propositions de loi visant à interdire les transitions des mineurs et la sortie d'un livre transphobe promu par l'extrême droite. On prépare la riposte, notamment pour une transition libre et gratuite pour tous et toutes, l'accès à la PMA, l'arrêt des mutilations pour les enfants intersexes, des moyens massifs pour la santé et une éducation aux questions de genre et sexualité. Donc voilà, on peut enchaîner deux manifs dimanche. Je vois que tu avais aussi un rendez-vous dont tu voulais parler,
oui,
Fatima.
Oui, il y a les soirées du Mas de Granier à Saint-Martin-de-Croix, il y en a une samedi prochain, le 4, c'est Zanatani, avec Marie Soa et Soli, qu'on connaît à Marseille. Et donc Zanatani, une conversation intime, terre déracinement, exil, identité sur les rouages du racisme. Ça commence, je pense, à 19h. Et voilà, il y a possibilité. Non, vous êtes attendu à partir de 17h. Et le spectacle commence à 18h. Il y a possibilité de se restaurer. Et il y aura les liens sur le site de Radio Galère. Et dire aussi que ton texte que tu as écrit, qui est très très beau, sur ton itinéraire, il est aussi consultable sur différentes plateformes.
Alors, il va être consultable sur les réseaux sociaux de TCEDEC et sur le site de l'ANC. Qui est l'association nationale des communistes, voilà, à Marseille.
D'accord. C'est pas l'ANC historique. Ouais.
Et un dernier rendez-vous, il y en aura d'autres, mais bon, c'est pour vraiment les jours qui viennent, le mercredi 8 mai. Donc, il y a une manif qui part à 14h des réformés contre les JO. Bah, avec toutes les questions globales que peuvent poser l'organisation des Jeux Olympiques, de chasse aux pauvres, aux migrants, de gentrification de la ville, mais aussi, du coup, il y aura tout un cortège palestinien qui est aussi appelé par différents collectifs par rapport à demander la non-participation de l'État génocidaire d'Israël à ces JO. Donc voilà, c'est aussi un autre rendez-vous, mais bon, que vous pouvez retrouver aussi dans les infos choisies de Radio Galère, entre autres. Et peut-être tu veux nous présenter le morceau pour finir. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu. Voilà, je trouve que c'est vraiment une émission et des paroles importantes. Et bon, on se retrouve dans la rue, entre autres.
Donc ça s'appelle je suis Oud et c'est chanté par Bassela Abou Hamed, et qui est une chanteuse palestinienne dont la famille a été expulsée en 1948 de Palestine et qui se sont réfugiés en Syrie. Voilà, et elle chantera aussi le 4 mai, elle chantera également lors de cette soirée au théâtre Tourski.
Eh bien, merci beaucoup et on se retrouve le mois prochain.
Merci.
Merci.
Merci. Bonsoir.
Passion demain, on remonte dans le... camion. Sans chaud, mal au noir, elles chantent toujours sur le dos. Le mic, on veut du niveau.